Avant l'orage, une émission féministe de découverte littéraire. Et pas que. Et bonjour et bienvenue à l'écoute de la radio Info RC pour celles qui nous rejoignent. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu. Bonjour.
Bonjour.
Mathieu, tu fais partie de la bibliothèque associative Les Lunes, Les Lins, Les Lynx. Et il y a un mois, tu es venu dans Avant l'orage nous parler de plusieurs livres coup de cœur. Un désir démesuré d'amitié de Hélène Giannichini, Les enfants endormis de Anthony Passeron et Photos sur demande de Simon Chevrier, avec l'envie de réfléchir ensemble autour de la question de la filiation, un motif qui parcourt ces trois livres avec comme méthode la recherche d'archives, la recherche de documents historiques et comme toile de fond historique à ces trois livres, l'épidémie du sida et son héritage. Et d'ailleurs, vous pouvez réécouter cette édition de Avant l'orage sur le site www.inforc.fr. Avant l'orage, c'est une émission féministe et queer de découverte littéraire que l'on produit et que l'on diffuse tous les mois sur la radio InfoRC. Aujourd'hui, Mathieu, tu reviens avec entre les mains un nouvel ouvrage. Ça s'appelle « Mon vrai nom est Elisabeth », c'est écrit par Adèle Yon, publié aux éditions du Sous-Sol. On peut tisser pas mal de liens avec les livres que tu nous avais déjà présentés il y a un mois. On va en parler pendant une trentaine de minutes. On va être ensemble pour une plongée dans ce roman autobiographique qui est d'ailleurs roman, mais aussi à la frontière de l'essai. Avant de se jeter à l'eau, tu avais envie de nous faire écouter un enregistrement. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est un enregistrement qui va vous présenter de quoi parle ce livre, d'où il vient. Et je l'ai enregistré à la Cassette à Pantin, qui est une école de radio, dans laquelle j'ai fait une petite formation la semaine dernière, et c'était une formation pour la voix off. Donc voici ma voix off, présentation de Mon vrai nom est Elisabeth.
Et comme ça, après, tu pourras nous donner des conseils.
Aujourd'hui, dans Avant l'orage, on découvre Mon vrai nom est Elisabeth, le premier roman d'Adèle Yon. Dans l'émission du mois de juin, qu'on vous invite à écouter ou réécouter sur notre site internet, on avait évoqué trois livres qui mettaient en scène une recherche dans des archives ou dans la mémoire vivante. Les autoristes cherchaient à reconstituer l'histoire de personnes vouées à l'oubli. Chaque fois, cette recherche créait ou recréait une filiation et nous renvoyait vers des biographies de personnes minorisées et la mémoire de la pandémie de sida. Mon vrai nom est Elisabeth, c'est un premier roman sorti cette année, écrit par Adèle Yon. Le livre est issu d'un travail de thèse de recherche-création sur le double fantôme au cinéma. Mais de cinéma, il est très peu question ici, car Adèle Yon a mené par ailleurs une enquête familiale, et cette enquête l'a amené à trouver son propre double fantôme, en la personne d'Elisabeth. À la fin de sa vingtaine, alors que l'un de ses grands-oncles vient de se suicider, elle sent en elle une fêlure qui pourrait tout emporter. Mais plus que la fêlure elle-même, c'est la mythologie familiale qui l'effraie. Les femmes de la famille, toutes, à un certain âge, frôleraient la folie. Elles risqueraient d'y plonger. Quelque chose comme une prédisposition, une fragilité. Tout le monde sait d'où ça vient. Elisabeth, surnommée Betsy, l'arrière-grand-mère d'Adèle Yon, celle par qui la malédiction est tombée sur la famille, celle qui a sombré. Adèle Yon part de cette légende et du constat que cette aïeule est omniprésente, tout en étant l'objet d'un tabou familial. Elle entreprend de découvrir qui était réellement Betsy. Elle réalise des entretiens avec sa famille, plonge dans des archives privées et médicales, dans les bibliothèques historiques de médecine. Elle retrace peu à peu une piste. Mais chaque nouvel élément apporte avec lui de nouvelles questions. Elisabeth était-elle schizophrène, comme certains enfants le racontent et d'autres en doutent? Qu'y a-t-il à comprendre dans les silences de ses enfants? Comment une jeune femme, vive et prise de liberté, devient-elle cette femme éteinte à la santé fragile qui enchaîne grossesse et cure médicale ou internement de plus en plus long? Quel lien avec cette vieille femme déficiente mentale, éternelle enfant, qui peuple les souvenirs de vacances de toute la famille? C'est un premier livre qui vous emporte aux premières loges de la recherche en train de se faire, avec ses impasses et ses miracles. Surtout, elle vous emporte tout au bord d'un fossé très dur à franchir. D'un côté, l'amoncellement des indices, des traces, des éléments subjectifs comme objectifs, souvent contradictoires. De l'autre côté, le moment d'opérer une synthèse, de dire ce qui, réellement, fut la vie de cette femme. Mais est-il même possible de savoir, de trancher? C'est cette question qui nous fait avaler à toute vitesse les pages de « Mon vrai nom est Elisabeth ».
Et on est de retour dans les studios de la radio Info RC. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un texte que tu as écrit et que tu as mis en voix à l'occasion d'une formation que tu disais avoir fait à la cassette à Paris, une formation en voix off. Et tu l'as écrit exprès pour notre interview. Merci beaucoup. ça a été. Est-ce que tu aurais des retours à faire sur la formation en voix off, peut-être avant de parler du contenu du texte?
Ouais, quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est le formateur qui disait qu'il faut parler avec un sourire dans la voix et que le sourire, ça s'entend. Mais en fait, tout s'entend en radio.
Et oui, on entend beaucoup les sourires. Après, moi, je lutte aussi contre les injonctions à sourire. Mais bon, c'est difficile. Je souris aussi beaucoup. Et oui, donc, le texte qu'on vient d'entendre, c'est une présentation du livre « Mon vrai nom est Elisabeth » de Adèle Yon, que tu vas nous présenter aujourd'hui. Comment tu le relis aux ouvrages que tu avais présentés la dernière fois dans « Avant l'orage » ?
La dernière fois, la question de la filiation, elle n'était pas toujours très claire avec Anthony Passeron. Bon, c'était son oncle et sa famille, donc ça venait de source. Mais pour Hélène Giannichini et Simon Chevrier, c'était plutôt des filiations queer, des filiations de chercher quelque chose, une histoire qui ne nous a pas été racontée et qui est en même temps notre histoire. Là, pour Adèle Yon, c'est le mélange des deux, donc c'est une histoire qui ne lui a pas été racontée, mais qui est son histoire et qui est l'histoire de son arrière-grand-mère. Et donc, c'est essayer de trouver qui était vraiment Elisabeth.
Avec cette recherche d'archives qui fait qu'il y a une sorte de patchwork de différents types de documents.
C'est ça. Alors du coup, Adèle Yon, à la base, elle est plutôt cinéaste, cinéphile, et enfin, elle n'a pas fait de cinéma, mais elle a étudié le cinéma. Et en fait, ça se ressent beaucoup dans la construction du livre, parce qu'il y a des flashbacks, il y a des coupures qui sont permises par l'introduction de documents d'archives en intercalaire entre les moments de narration. Et donc, il y a des lettres écrites par son arrière-grand-mère et son arrière-grand-père. Il y a des entretiens qu'elle a enregistrés avec un micro, avec des gens de sa famille, et qu'elle retranscrit par écrit dans son livre. Et donc, ça fait une construction comme ça, un peu par collage, par intercalaire, qui est très cinématographique, et qui, du coup, permet d'interroger ce qu'on a compris dans son récit par rapport à de nouveaux éléments qu'on reçoit dans les archives. Et c'est une construction de notre connaissance de la situation qui est très intéressante parce qu'on avance par petits éléments. Et ouais, c'est très très beau comme façon de construire le récit.
Oui, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un roman autobiographique, mais qui est à la frontière de plusieurs genres, parce que ça peut aussi ressembler à un essai. Ce qui est intéressant aussi, enfin, ce que j'ai compris, hein, parce que j'ai lu que quelques extraits, c'est que cette recherche d'archives, elle est également mise en scène, et il y a un recul critique, une réflexion qui est apportée justement sur cette recherche.
Oui, c'est ça. Là, bon, déjà, elle est mise en scène dans le livre parce qu'il y a des différences de police qui permettent de savoir quand on est dans le récit qu'elle écrit elle-même, quand on est dans les enregistrements retranscrits, ou quand on est face à des documents d'archives. Et en plus, elle est mise en scène parce que donc elle parle de sa recherche, comme on peut retrouver aussi dans des podcasts. Ça ressemble beaucoup à beaucoup de podcasts qui existent sur voilà, les recherches des origines, de mettre fin à un silence dans la famille.
Tu penses à quoi comme podcast ?
Par exemple, Faire taire le silence et Être une sœur, dont j'ai oublié le nom de la réalisatrice, mais qui sont sortis cette année sur l'expérience de France Culture. On a aussi Les années Boom d'Adila Benedjaizou sur France Culture aussi. Voilà, beaucoup de choses dans ce genre-là, où on est à la recherche de la vérité sur une histoire familiale. Donc voilà, elle se met en scène de la même manière que ces donc journalistes ou réalisateurs de documentaires qui partent de leur propre voix, de leur propre situation, et qui se mettent en scène dans la recherche à travers les interactions avec les gens de la famille ou des spécialistes pour essayer d'en savoir plus. Et en effet, ça va aussi vers l'essai, parce qu'à travers donc cette recherche sur l'histoire d'Elisabeth, on découvre aussi l'histoire de la psychiatrie, de la prise en charge de la santé mentale en France au XXe siècle. Et voilà, elle fait aussi un travail à ce niveau-là qui se rapproche de l'essai, en effet.
Et à propos de cette recherche d'archives, on avait un extrait à vous faire lire. Alors, on commence par la fin du livre.
Oui, parce que c'est ma page préférée.
Tu veux que je lise ou tu préfères lire, toi ?
Alors, ce qu'on peut faire... Il peut y avoir une répartition où ce serait quelqu'un d'autre qui lit les passages en italique.
Ok. Oui, donc on va lire ce passage à deux voix, et moi je lis les passages en italique.
Les archives, comme les histoires que l'on se raconte pour grandir, sont des paravents. Elles dispensent une réalité codée, fractionnée par les plis de l'objet, en grande majorité recouverte, et dont nous ne voyons que le haut, le bas et les interstices.
Lorsque j'ai commencé cette enquête, je croyais chercher dans les archives, je ne dirais pas la vérité, je n'ai pas cette innocence, mais du moins un certain nombre de faits qui, mis dans le bon ordre, auraient fourni une version partielle mais représentative de l'histoire de Betsy. Si j'avais besoin des archives, c'est que j'avais la vague conscience que les voix des membres de ma famille mentaient, ou plutôt, mentir n'est pas le mot, qu'elles ne pouvaient pas, comme le dit ma grand-mère, dire plus que ce qu'elles pouvaient dire. En l'occurrence, presque rien, hormis les quelques phrases rituelles qui leur ont permis de grandir.
On n'en parlait pas, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Je n'en veux pas à mon père.
Je pensais me sauver de l'aveuglement familial par la recherche. J'avais cette formation universitaire, j'étais une adepte des bibliothèques et des grimoires. Je pouvais parler ce langage-là. Je pensais sauver une part de moi par une autre. Penser l'affection par le savoir. J'ai découvert que les documents mentent. Non, mentir n'est pas le mot. Qu'ils sont tout aussi partiaux que les individus, voire davantage encore. Car le temps ne fait rien d'autre aux documents que de les effacer. Alors qu'il rend l'individu plus sévère, et donc plus silencieux, ou plus sensible, et donc plus bavard. Les récits des individus sont étonnamment fragiles. Ils peuvent se maintenir, identiques, dans le silence pendant 70 ans, puis se modifier sous nos yeux en quelques secondes, comme ces peintures rupestres qui s'évanouissent sur leurs pans de roche, sitôt qu'un ray de lumière les touche. Ils sont aussi étonnamment plastiques, bouffis d'images oubliées qu'un nom, un geste, une question, peut soudain faire surgir des entrailles de la terre. J'aime la labilité des récits intimes, ces tissus cellulaires constamment rongés que la mémoire se bat pour maintenir à flot, tissant une nouvelle pièce à chaque fois qu'une ancienne disparaît. Il paraît que la nature n'a finalement pas horreur du vide. Je crois que l'esprit, lui, l'a. Mon père raconte que Betsy, lorsqu'elle disait une ineptie à table qui faisait rire la galerie, s'en rendait compte immédiatement et riait avec eux de bon cœur. Moi, j'imagine que dans ses yeux, une petite lueur doutait. Une petite voix qui se mettait en marche et lui soufflait. Pourquoi je dis cela? Qu'est-ce qui m'a fait dire cela? Par tous les moyens, son cerveau cherchait à reconstituer l'image manquante. Comme les malades d'Alzheimer qui, quand ils ne savent plus, ne savent pas rien, mais savent autre chose. Avez-vous déjà vu cela? Le regard de la personne qui prononce une phrase dont elle sait qu'elle n'est pas véritablement juste, mais doit impérativement la prononcer quand même. Le regard de celle qui passe son temps à essayer de rattacher ses perceptions au réel.
Je dis ça comme si tu étais ma fille. Je suis ta fille. Je sais.
On pointe cette tendance chez les fous. Mais je sais, moi, que ça ne leur arrive pas seulement à eux. Il y a des récits partout. Leurs récits, les miens, les paravents. Ceux que l'on sait être en partie inexacts, au mieux incomplets, mais que l'on exprime quand même. Inlassablement. Car sans eux, on ne pourrait pas vivre.
C'était un extrait de « Mon vrai nom est Elisabeth » de Adèle Yon, dont on parle aujourd'hui dans « Avant l'orage ». Donc un extrait qui montre bien cette recherche d'archives et cette question aussi du silence qui parcourt tout le livre.
Oui, et sur le fait aussi que les archives ne sauvent pas tout. Et que c'est pas parce qu'on trouve des archives qu'on trouve quelque chose d'objectif, qu'on trouve une réponse, de la même manière qu'on ne trouve pas une réponse en faisant parler ses grands-parents. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant dans ce livre, c'est que chaque nouvel élément apporte plus de questions que de réponses, et il y a beaucoup d'éléments qui sont contradictoires, il y a beaucoup d'éléments finalement qui sont dans les négations aussi. Il y a des membres de la famille qui nient des choses qu'on n'a jamais apportées dans la conversation, et donc ça fait sonner des alarmes. Pourquoi il en parle? On n'en a pas parlé jusqu'à présent, pourquoi est-ce que ça vient dans la conversation? Et ça c'est vraiment, vraiment très intéressant aussi, et donc on n'a aussi pas précisé que Betsy, dont il a été question dans l'extrait, c'est le surnom d'Elisabeth. Et du coup, ce titre « Mon vrai nom est Elisabeth », c'est aussi parce qu'à travers le livre, on ne la connaît que sous ce surnom de Betsy, ce petit diminutif un peu infantilisant. Et c'est aussi toute la question, c'est l'infantilisation des femmes et des personnes avec une santé mentale qui sort de la norme.
Et sur cette question aussi que tu disais, les archives ne sauvent pas tout, et même la parole ne sauve pas tout. Dans les extraits que tu m'as partagés, j'ai l'impression que c'est aussi un nœud, cette question de la parole et la place de la parole dans le rétablissement, tant à l'échelle individuelle que collective, où elle veut faire parler sa famille, elle a l'impression qu'elle va trouver des réponses, ou en tout cas trouver une forme de thérapie par la parole. Et elle se heurte un peu au silence, et finalement le silence parle plus que la parole. Enfin, je sais pas vraiment si c'est clair, mais il y a quelque chose de cet ordre-là.
Oui, et il y a aussi, c'est très intéressant de voir les réactions des gens qui parfois peuvent être opposés à la parole, qui ont un rapport à la parole complètement différent, dans le sens où pour eux ça va être faire ressurgir le passé, ça va être le faire revivre, et donc ça montre aussi la façon dont les gens ont pu traiter des traumatismes, juste en les enfouissant, et ont le sentiment que le faire ressortir, forcément ça va être douloureux, mais que c'est pas une voie vers le rétablissement, c'est juste une façon de faire revivre les événements et pas une façon d'en soigner, en fait. Et en effet, il y a un extrait, une interview avec une arrière-petite fille qui, donc, vit ce traumatisme, en quelque sorte, de façon transgénérationnelle, et qui le vit complètement différemment d'Adélion, alors qu'elle-même est thérapeute, et donc on pourrait s'attendre à ce qu'elle ait un rapport avec le silence différent. Mais donc c'est assez surprenant comme passage, on peut peut-être le lire.
Oui, et on pourra aussi le mettre en écho avec l'autre passage où elle parle avec son grand-père après. Tu veux que je lise ?
Ouais, si tu veux. Mais de toute façon, c'est en deux voix, c'est la petite pièce de théâtre avec Blanche-Neige.
Ah oui, comme c'est un entretien qui est retranscrit, c'est à deux voix, ça ressemble presque à une petite pièce de théâtre. Donc on fait les deux voix, toi t'as envie de faire quelle voix ?
L'arrière petite fille, elle s'appelle Blanche-Neige. non, je sais pas, enfin, après elle parle plus en fait, donc vas-y prends-le.
Je prends Blanche-Neige ?
Ouais.
Je ne crois pas qu'il y ait besoin de dire pour guérir.
Ah non ?
Dans ma pratique de la psychothérapie, je fais une place au secret. Pour moi, ce n'est pas nécessairement la peine d'en passer par l'explicite.
C'est curieux. Le silence, c'est un point central dans cette famille. Je l'ai vu dès ma première conversation avec mes grands-parents. Il y a 3 ans, quand on remontait la voiture du Portugal et que notre grand-mère m'a engueulé en disant « À quoi ça aurait servi à ta grand-mère de parler ?» Et ça s'entend jusque-là, récemment, quand j'ai vu le fils aîné de Betsy. Il m'a passé un savon. Lui, il m'a carrément dit « Je pense que le fait de ne pas parler est là pour quelque chose. » Je trouve ça très mal d'aller contre ça et d'essayer de faire parler les gens. Bon, moi, je n'ai jamais forcé personne à parler. Mais de là à dire qu'il ne faut surtout pas parler... Alors, quand tu me dis que dans ta pratique de psy, tu fais une place au silence, bah, ça me met la puce à l'oreille.
Oui, au secret. Dans le traumatisme, il y a une grande part de réaction. En allant forcer la parole, on risque de détruire plus que de soigner. L'oubli est là pour quelque chose. La temporalité du silence, du secret, est majeure.
Mais ce n'est pas pareil de respecter la volonté de silence de quelqu'un que de dire qu'on est incapable de faire ce travail sur soi sans exprimer ce qui nous fait mal.
La parole ne libère pas toujours. Dans ma pratique, je travaille beaucoup avec des ostéopathes, des kinés. Je suis spécialisée dans le trauma, et dans le trauma, l'important, c'est de libérer le corps du réflexe de la réponse. Prendre en charge le trauma ne veut pas forcément dire passer par la parole, faire de la psychanalyse. En tant que psychothérapeute, je n'ai pas besoin de savoir, je n'essaie pas de décortiquer des choses. Je répare. Ce n'est pas une démarche de recherche.
J'ai du mal à comprendre comment on peut réparer sans chercher.
De manière générale, je ne suis pas dans une dynamique de chercher quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de réponse.
Pourquoi tu dis ça ? Tu parles de toi ?
Aussi. C'est intéressant, là, la démarche de la narratrice qui recherche des réponses pour sa propre... J'ai l'impression qu'il y a aussi une dimension thérapeutique dans le livre, pour elle, et qui finalement se rend compte qu'il y a peut-être d'autres chemins, d'autres stratégies.
Oui. En effet, il y a vraiment un rapport avec elle au niveau de ce qui est présenté comme de l'hérédité, en fait, dans la famille, où il y a une sorte de mythologie qui dit que toutes les femmes de la famille, dans la vingtaine, frôlent la folie et ont une difficulté, qu'il y a quelque chose en elles qui parle et qui serait hérité de Betsy, d'Elisabeth. Et on a un extrait justement qui parle de cette hérédité. Est-ce qu'on le lit maintenant ?
Oui, on peut lire l'extrait sur la question de l'hérédité. Peut-être avant, on peut lire l'extrait justement dont elle parle dans ce qu'on vient de lire, où elle dit un peu le moment inaugural qui a initié l'enquête.
C'est ça, quand elle dit, quand elle a parlé à son grand-père et à sa grand-mère dans la voiture, c'est dans les premières pages, et on découvre en fait le poids du tabou dans la famille et la difficulté que ça va être de faire parler les gens de sa famille. Tu veux lire ?
Ouais. Maman, je l'ai mieux connue à cette période-là, dit ma grand-mère. Elle n'habitait pas chez nous, mais elle venait très souvent. Et puis elle m'appelait. 7, 8 fois par jour. Elle m'appelait tout le temps. Je garde une hantise des sonneries de téléphone. Mais c'était ma mère. C'était une malade, mais c'était ma mère. J'avais une affection pour elle. Oui, une affection. Je m'en occupais, je m'en inquiétais. C'était une affection peut-être un peu lointaine, un peu rude. Mais elle était là. Elle est morte en quelle année ? Je demande. Ma grand-mère réfléchit quelques instants. Quand ses parents sont morts, elle a été en maison de retraite. Et puis elle est morte d'un cancer de la peau assez rapidement, en... C'était le jour du mariage de ta nièce, dit mon grand-père. Alors, en 1989, ou 1990, quelque chose comme ça. Je ne peux pas te dire grand-chose de plus. Vraiment, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Tout ce que je peux te dire, c'est que je remercierai toujours mon père de ne pas avoir divorcé, de ne pas avoir fait de nous des enfants sans mère, ou pire, avec une autre mère. D'une certaine manière, il est resté fidèle. André aurait pu annuler le mariage, dit mon grand-père, mais il ne l'a pas fait. Il est évident que Betsy était déjà malade avant. Avec lui, son beau-père, ils ont cherché ensemble des signes précurseurs de la maladie de Betsy. Mais André n'a jamais été au bout de sa démarche, et ils sont restés mariés. Il aurait pu faire annuler le mariage, mais il ne l'a pas fait. Silence. Tu as déjà parlé de l'histoire de ta mère avec quelqu'un ? Je demande à ma grand-mère. Elle dit « Non ». Je n'ai jamais parlé de l'histoire de ma mère avec personne. Ni avec ses deux sœurs, de qui elle est si proche, qu'elle voit une fois par semaine, et l'été en Bretagne, tous les jours. Tous les jours dans la mer, elles font des longueurs. Elles nagent près du rivage plusieurs dizaines de minutes. Une heure, parfois, quand l'eau est chaude. D'un bout à l'autre de la plage, elles nagent en longs sillons horizontaux. Et jamais elle n'a dit, ni à l'une ni à l'autre, « Maman ». Avec ses frères, elle n'a jamais parlé de sa mère avec ses frères. Ils ne parlent jamais de leurs sentiments. Ni avec son père, André, qui est mort en 2011, sans avoir prononcé un seul mot sur sa femme. Ni avec ses enfants. Ce n'est pas leur histoire. Avec un psy ? Non, à quoi ça aurait servi ? Elle va très bien. Mon grand-père au volant intervient sans se retourner. À quoi ça lui aurait servi d'en parler ? Elle va très bien, ta grand-mère. Voir un psy peut être très dangereux. Parfois, ils mettent des choses dans la tête de leurs patients. Ou alors, les patients, à force de ne penser qu'à eux-mêmes, finissent par s'inventer des traumatismes pour trouver une cause à leur souffrance. Ils ne se rendent pas compte que ce qui les fait souffrir est précisément de chercher ce qui les fait souffrir. Des familles entières ont été brisées parce que certains de leurs membres s'inventaient des traumatismes. Accuser un père, un oncle, un grand-père d'inceste, par exemple, alors que c'était complètement faux. Non, il vaut mieux laisser le passé là où il est quand on a réussi à vivre avec. Ta grand-mère va très bien. Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle a une extraordinaire capacité à oublier. Ce qui lui fait du mal, elle l'oublie. Silence. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle avait ta mère ? Je demande. Je ne sais pas, dit ma grand-mère. Elle n'a jamais été vraiment diagnostiquée. Silence. Mais si, voyons. Mon grand-père au volant intervient sans se retourner. Betsy était schizophrène. Peut-être avant de lire la suite de l'extrait, on peut parler déjà de ce passage, parce qu'après ça va rajouter plein d'informations et on va se perdre. Oui, parce que là, on a la question du silence qui est mise en parallèle avec la question de l'inceste. Et on a les propos rapportés du grand-père. Hein, ce qu'on entendait, c'était la voix du grand-père, les propos rapportés, où on entend un peu le point de vue de la narratrice, qui serait plutôt de... Bah, en creux, et puis elle le dit clairement qu'elle veut parler, elle veut faire parler les traumatismes. Qu'est-ce que tu aurais à en dire ?
C'est vrai que c'est important que tu... Enfin, moi, quand je parlais des alarmes dans les négations, les alarmes qui s'allument dans les négations, on a celle-là, et elle revient plusieurs reprises. Et c'est vrai que quand on a déjà lu, écouté des choses sur le sujet des violences intrafamiliales, on sait que le tabou, c'est pas le fait de commettre l'inceste, c'est le fait d'en parler. Et que dans les familles où il y a des violences intrafamiliales, il est omniprésent. Et c'est juste le fait de mettre le doigt dessus et dire qu'il faut en parler et qu'il faut le révéler qui pose problème. Et donc là, le fait que les hommes de la famille soient aussi tendus sur ce sujet-là, et que, alors qu'on ne leur en parle pas, ils disent « Non, mais voilà, il y a des gens qui s'imaginent des histoires de violences intrafamiliales. » Et ben voilà, forcément ça met la puce à l'oreille sur cette question-là. Et je pense que c'est assez bien amené par Adélion, du coup.
Et on peut peut-être lire la suite de l'extrait ?
Oui.
Donc c'est un extrait du début du livre. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu la conversation inaugurale qui va lancer la recherche. Et donc là, elle met un peu en question la conversation qu'elle est en train d'avoir avec ses grands-parents. À ce stade, je me dois d'apporter une petite précision. On pourrait croire que mon enquête commence ici, en décembre 2020, sur la route de Salamanque. Mais ce n'est pas le cas. Je peux employer le présent pour faire croire qu'au moment où j'écris, j'y suis sur la route de Salamanque, en train de cuisiner ma grand-mère qui ne se souvient de rien. Je peux employer le présent pour décrire la position dans laquelle elle se trouve, à l'avant, les yeux dans le brouillard, et moi à l'arrière, réfléchissant à la meilleure stratégie pour prononcer le mot interdit. Je peux employer le présent pour raconter comment je découvre ce que veut dire faire souffrir une femme, en prétendant que ce n'est pas aussi moi, cette femme que l'on fait souffrir, mais seulement elle, Betsy, face à laquelle ma souffrance devrait m'apparaître comme ce qu'elle est, minable. Je peux employer le présent, et d'ailleurs je continuerai à le faire, pour ne vous épargner aucune des étapes qui composent ma découverte de l'histoire de cette femme. Mais soyons clairs, quand on souffre, on n'écrit pas. Et d'ailleurs, on n'enquête pas non plus. Dans le présent que je raconte, tout est bien tel que je me le rappelle. Les rideaux de pluie, le ventre serré, les questions que je pose, les réponses que je reçois. J'ai cependant soustrait à ce présent un élément fondamental et que je devais taire. Car comment commencer une enquête par l'absence de désir de savoir ? Comment commencer un récit par le manque d'envie de raconter ? Et qui est le suivant ? Lorsque je demande à ma grand-mère « Qui s'occupait de toi quand tu étais enfant ?» Lorsque je lui demande « Betsy, ta mère, elle n'était pas là ?» Puis tout ce qui suit, lorsque je tire ce prénom du silence, je ne suis mue par aucune curiosité pour l'histoire de Betsy. Je n'ai pas le désir de la connaître. Je n'ai pas le désir de connaître Betsy parce que mon désir est entièrement occupé ailleurs, monopolisé par un homme rencontré quelques semaines auparavant qui me malmène ou au travers duquel je me malmène. Je ne parviens toujours pas à statuer sur ce point. J'aurais d'ailleurs pu mentionner entre chaque question posée à ma grand-mère l'attente fébrile d'un message de lui. J'aurais pu entrecouper les dialogues précédents de didascalies du type « J'éteins mon téléphone » et plus loin, je le rallume, épuisé d'avoir tenu si longtemps. Rien. J'aurais pu le faire, mais il faut avouer que ce n'était pas le sujet. Ce qu'il est, en revanche, c'est que durant ce voyage vers Salamanque, mes questions sur Betsy ne sont que des distractions temporaires. J'emploie le terme de distraction sans aucun jugement de valeur. Ces questions sont motivées, elles ont déjà accompli la prouesse de se hisser jusqu'à ma conscience, mais ce sont des distractions tout de même. C'est-à-dire que grâce à elles, je parviens à détourner mon attention de cet homme durant des laps de temps compris entre 30 et 60 secondes, selon l'intensité des réponses que l'on me fait. C'est énorme. C'est énorme. Bien plus que durant les 3 mois qui se sont écoulés depuis notre rencontre. Ces questions sont un pur réflexe de survie. Un piolet balancé en direction de la falaise au moment où j'ai déjà basculé dans le vide, les 2 bras cassés par une chute de pierre. J'ai la vague intuition que si advenait un nombre fantastique de hasards consécutifs, ce nom balancé à travers le vide pourrait être le roc depuis lequel une corde se tendait juste avant l'impact. Que l'on s'entende bien, je n'ai pas la force de me hisser, il faudra que l'on me hisse, et je n'ai pas l'intention de faire le moindre effort pour accompagner le mouvement. C'est pourquoi, dans la voiture lancée vers Salamanque, je ne ressens rien de la curiosité du détective poursuivant une piste fraîche. Je pense à lui tout le temps. Parfois, je pense à elle, et alors, je me dis simplement « Est-ce que je suis folle, moi aussi ?» Merci pour ce passage.
Merci à toi pour la lecture. Je trouve que c'est très intéressant ce retournement de situation dans le chapitre où Nakua dit « Vous pensiez que je disais la vérité ?» Qu'est-ce que vous croyez ? Je vous mentais sur toute la ligne, en fait. C'est pas du tout le début d'une enquête, c'est juste moi qui essaye de pas penser à certaines autres choses. Je trouve que ouais, c'est pas souvent qu'on lit des trucs comme ça et ça met vraiment le doigt sur le fait qu'on va pouvoir faire confiance à pas grand-chose dans cette histoire. Bon, elle commence à nous dire « Bon, voilà, maintenant, vous savez un peu ce qu'il en est, donc vous pouvez me faire confiance, mais qu'en est-il ? » Et maintenant, ouais, toutes les voix qu'on va écouter, on va se dire « Voilà, il y a toujours un double jeu, quoi. »
Et moi, ce que j'entends peut-être, mais j'ai pas lu le livre, donc c'est une hypothèse ou une intuition, mais c'est que en miroir, cette obsession pour cet homme, elle vient aussi questionner la notion de folie. Et on retrouve aussi ce truc de « Est-ce que moi aussi je suis folle ? Est-ce qu'il y a une hérédité de cette folie ? Est-ce que je vais échapper à cette folie qui a touché les femmes de ma famille ou en tout cas ma grand-mère ?»
Oui, et c'est quelque chose aussi qu'elle... Enfin, c'est pas une question qui vient de nulle part. C'est une question qui vient du fait que depuis qu'elle est adulte, il y a des éléments amenés de façon assez grave par les autres membres de la famille, dans le sens grave, avec une voix grave, avec voilà, un ton grave, qui lui ont fait comprendre qu'elle était, entre guillemets, à risque, qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire n'importe quoi, notamment avec les drogues, ce que ses grands-parents lui ont dit, parce qu'il y a cette hérédité d'une potentielle schizophrénie qui pourrait être développée à partir de soit des drogues, soit d'autres choses. Et donc, il y a ce côté un peu marcher sur une corde raide, parce qu'on sait que c'est dans la vingtaine que ce genre de pathologie peut se développer, etc. Donc voilà, ça ne sort pas de nulle part. Elle ne se dit pas juste « est-ce que je deviens folle comme ça ?» parce qu'elle est dans une situation un peu compliquée. Elle,
Voilà, c'est aussi suggéré par tout un cadre familial, tout un récit, déjà.
Et cette question de l'hérédité, on ne sait pas si elle est réellement appuyée, on va dire, scientifiquement, ou si c'est, comme tu disais tout à l'heure, une mythologie construite justement par les récits familiaux.
Oui, c'est ça, la faiblesse dans le récit, ça vient du fait que tout le monde n'est pas d'accord sur cette histoire de schizophrénie. Par exemple, dans l'extrait qu'on vient de lire, la grand-mère dit oui, elle n'a jamais été vraiment diagnostiquée, et le grand-père, qui n'est pas le fils de Betsy, en plus, qui est une pièce rapportée entre guillemets dans la famille, dit mais si, si, elle a été diagnostiquée, c'est schizophrénie, etc. Et c'est marrant ce truc de, dans cette conversation, la seule personne qui est certaine et qui sait même des dates ou des choses, c'est la personne qui n'est pas de la famille, enfin, qui est de la famille par mariage, quoi. Il y a cette histoire sur le diagnostic de la schizophrénie, qui est la première grande question du livre. Est-ce qu'on va réussir à trouver une trace de ça? Est-ce qu'on va réussir à trouver un papier d'une institution psychiatrique qui fait un diagnostic? Et oui, on va trouver de nombreux papiers dans les institutions psychiatriques, et on va trouver même plus que ça, une thèse de médecine, quelque part dans une bibliothèque historique de médecine, qui évoque une patiente qui ressemble trait pour trait à Betsy, à Elisabeth. Et du coup, on se demande si c'est bien Elisabeth qui est le sujet de cette thèse de médecine qui parle des effets de la lobotomie sur les patients. Et donc, c'est toute une partie du livre qui s'ouvre donc sur expliquer ce que c'est que la lobotomie, l'histoire de cette pratique, et essayer de trouver si c'est bien Betsy qui est cette patiente.
Oui, du coup, ça fait entrer la question de la psychiatrie, de l'enfermement, de l'impact aussi de ces pratiques sur les personnes. Et je me rends compte que le temps défile et qu'on arrive quand même à la fin de cette émission. Et comme on a beaucoup parlé de Betsy, le livre il fait parler des voix qui parlent d'elle, il y a quand même des choses aussi qui sont à la première personne. Tu m'as montré une lettre, peut-être qu'on peut terminer là-dessus.
Ça tombe bien, je me disais qu'en effet on avait trop parlé pour Betsy et que c'est ça aussi ce livre, il a vraiment quelque chose de très intéressant. C'est qu'on parle de quelqu'un qui est disparu, mais elle a la chance d'avoir des morceaux de texte écrits par Betsy elle-même. Et donc, en effet...
Oui, et qu'elle est disparue, mais que aussi de son vivant, des personnes parlaient pour elle déjà. Donc, pour terminer cette émission, on va écouter une lettre qu'elle a écrite.
Lettre du lundi 11 mars 1940, Saint-Germain-en-Laye, midi 30. André chéri, j'aurais aimé avoir eu un ami cet après-midi, pour marcher à ses côtés et bavarder. Cet ami, c'est vous le savez bien. Et j'ai songé à propos de l'amitié. Il ne faut pas que nos lettres donnent un ton artificiel à nos rapports. Déjà, pendant votre permission, n'étions-nous pas moins amis qu'avant nos fiançailles? Comprenez ce que je veux dire. Amis autrement. Je suis très touché d'être votre muse, votre dame. Mais j'aime encore mieux être votre ami. Pas votre petite amie, votre grande amie. Vous serez mon grand ami. Un ami, c'est quelqu'un avec lequel on peut discuter, même par lettre, jouer, faire des projets sérieux et des projets de vacances. Quelqu'un que l'on quitte sans pleurer. Loin de lui, on y pense souvent, et pas tout le temps. On est heureux de le retrouver. Pas déçu ni désenchanté s'il a perdu ses cheveux ou s'il a mûri physiquement et moralement. Je ne suis pas d'une naïveté impossible. Je suis très sensé. Je sais bien que nous sommes hommes et femmes, et j'ai grand désir d'être un jour votre femme. Ça n'empêche pas d'être ami. L'amour seul permet la grande amitié. Chacun pouvant compter sur l'autre et voulant uniquement le bien de l'autre. Être amis, nous sommes d'accord, voilà ce qui est viable, ce qu'il y a de plus chic. Betsy.
Merci, j'adore terminer cette émission sur une ode à l'amitié. En plus, ça fait le lien avec le livre dont on avait parlé la dernière fois, Un désir démesuré d'amitié de Hélène Giannichini.
Oui, et ça rétablit aussi le fait qu'on a parlé de Betsy à travers beaucoup de choses assez tristes et qu'en fait, on voit là une jeune femme vive et pleine de bon sens déjà, et surtout de projets, et avec une très belle lecture de ses propres sentiments.
Ouais, c'est très beau. Et donc, c'est comme ça qu'on termine cette édition d'Avant l'orage autour du livre de Adèle Yon, Mon vrai nom est Elisabeth, que tu as présenté, Mathieu. Tu fais partie de la bibliothèque Les Lunes, Les Lins, Les Lynx. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu peux dire deux mots sur cette bibliothèque?
Oui, c'est une bibliothèque associative autogérée qui est présente dans le local de la Cantine Populaire, 14 rue Nationale à Aubenas, et qui vous permet, avec une adhésion à prix libre, d'emprunter des documents, donc essais, fictions, bandes dessinées, il y a aussi des romans jeunesse et des livres pour enfants. C'est sur une thématique plutôt LGBT féminisme, mais intersectionnelle, donc ça recoupe énormément de sujets, avec de l'antiracisme, avec des questions de santé mentale aussi. On vous invite à venir emprunter à la cantine populaire, qui est ouverte le samedi matin pour la cantine, qui ne sera pas ouverte cet été malheureusement, mais on va faire des marchés. Alors vous pouvez nous prendre l'adhésion pour avoir notre newsletter, pour être au courant de nos différentes permanences pendant l'été. Et normalement, on sera donc sur le marché de Burzé.
Et la bibliothèque, elle est reliée à l'association d'éducation populaire, la Fougue. Et donc, c'est par la Fougue que la Biblique communique. Donc, vous pouvez suivre la Fougue sur les réseaux sociaux.
En effet, on est sur Instagram et sur Mastodon.
Merci. Et pour terminer, comme dans chaque édition de Avant l'orage, on propose de finir en musique. Tu as pensé à une chanson qui parle justement de santé mentale?
Oui, ça s'appelle Poussière de décembre et c'est chanté par le duo Candeur Cyclone que je vous invite à aller écouter. C'est vraiment un super duo.
Chemin de pensée que je m'applique à éviter, tant de chemins bien ancrés qui